Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Mona Ouzouf, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand privilège, un grand honneur de vous recevoir ici. Donc il se trouve qu'effectivement je vous lis depuis de nombreuses années, avec toujours une grande délectation. Délectation quant à votre pensée, qui est toujours en équilibre, et à votre écriture, que je trouve particulièrement exceptionnelle. Vous venez donc de faire paraître un recueil d'articles qui s'appelle « La cause des livres », qui est un recueil d'articles essentiellement donnés au Nouvel Observateur depuis une trentaine d'années, et puis vient de reparaître en poche, ou de paraître en poche, Varenne, donc, La mort de la royauté, 21 juin 1791, qui est donc votre récit de la fuite à Varenne. Alors, je voudrais essayer de voir avec vous pourquoi est-ce que dans ce livre, et dans l'ensemble d'autres livres de vous, vous défendez la cause du livre. Pourquoi est-ce que vous fréquentez le peuple des personnages et des héros livresques? Pourquoi est-ce que vous plaidez pour la lecture? Alors même que, d'une certaine façon, on a le sentiment que la lecture est chez vous une activité seconde, voire buissonnière. C'est-à-dire que effectivement, vous n'étiez pas destiné à cela, considérant que vous étiez destiné à faire de la philosophie. Puis, vous avez fait effectivement de l'histoire, et vous êtes devenue historienne de la Révolution française, et parallèlement à cela, s'est développé chez vous ce goût récurrent, constant, obstiné presque, de l'évasion par les livres et par la littérature. Alors donc, je voudrais essayer de comprendre pourquoi, et partir, me semble-t-il, du début, qui est le goût de l'ennui. Dans Composition française, donc le livre où vous racontez pour partie votre enfance et pour partie ce double héritage à la fois breton et français, vous dites que l'ennui est ô combien indispensable pour la lecture. Et que petite fille, quand vous étiez orpheline à 4 ans, dans cette maison qui était adjacente à l'école, où vous ne sortiez jamais, surtout le dimanche et le jeudi, donc à Plouas, vous aviez la mer qui était à 3 km et la forêt qui était à 3 km de l'autre côté, mais vous étiez baigné dans ce livre. Alors, est-ce qu'il faut faire, pour découvrir l'importance des livres, est-ce qu'il faut faire l'éloge de l'ennui? Et en quoi est-ce que l'ennui est indispensable, d'une certaine façon, pour se découvrir soi-même grâce au livre?
Oui, alors c'est un propos qui peut paraître évidemment paradoxal, et qui paraît d'autant plus paradoxal que les parents d'aujourd'hui vivent dans la terreur que leurs enfants s'ennuient. Et ont plutôt tendance à bourrer l'emploi du temps des enfants d'activités, comme on dit. Mon éloge de l'ennui est en fait un retour à mon enfance, et quand vous dites que les livres ont représenté pour moi une évasion par rapport aux sujets principaux qui devaient faire l'axe de mon existence, du moins de mon existence intellectuelle, le mot « évasion » ne me va pas trop, parce que, en fait, c'est loin d'être une évasion tardive, c'est plutôt une vie parmi les livres, avec les livres, et où les livres m'ont servi de copain, d'amis, de distraction, de loisirs. « Est-ce que tu avais des loisirs ?» disent parfois mes petites filles. Les loisirs, c'était ces très longs jeudis et ces très longs dimanches à contempler la cour de l'école de mes fenêtres, la cour de l'école désertée par le peuple enfantin. Personne n'y était plus, personne ne devait venir, jamais d'amis à la maison, de copains à la maison. Et donc, la seule ressource de l'enfant solitaire est bien sûr vouée à l'ennui. C'est la ressource des livres. Et il se trouve que les livres étaient nombreux chez moi, présents chez moi, à la fois par la bibliothèque léguée par mon père et par la bibliothèque de ma mère. Donc j'ai baigné dans les livres toujours, immédiatement, j'ai l'impression d'avoir toujours su lire. Et au fond, ça n'a pas été un choix tardif, une bifurcation, ce que votre propos laissait presque entendre ou suggérer, pas une bifurcation tardive, mais quelque chose de fondamental. Voilà pour une partie de la réponse. J'ajouterais que la lecture est une activité qu'on ne peut pratiquer que dans le silence et la solitude. Ce qui fait du reste le drame, je crois, de la lecture chez les adolescents d'aujourd'hui, c'est que j'écoute toujours avec un certain scepticisme amusé les discours de nos ministres de l'éducation qui attribuent la crise de la lecture à des méthodes d'enseignement de la lecture qui seraient soit trop archaïques, soit trop modernes, soit en tout cas, bref. Ça n'a, à mes yeux, la méthode, les méthodes de lecture n'ont rien à voir avec la désaffection du livre par les adolescents, mais tout à voir, en revanche, avec un univers qui est désormais saturé de bruit. Or, on peut écouter de la musique ensemble, on ne peut pas lire ensemble. On peut lire côte à côte. C'est même un très grand plaisir quand on a découvert la personne avec laquelle on peut lire côte à côte. Mais voilà, c'est une activité quand même solitaire. Donc la solitude étant désormais, et le silence, étant désormais des biens luxueux dans le monde agité qui est le nôtre, il est normal que la lecture pâlisse au profit d'autres loisirs ou d'autres occupations. Mais ça, c'est un peu une digression. Pour en revenir à votre propos, qui est au fond pourquoi la littérature s'y présente tout au long de mes travaux, et pourquoi pas la philosophie que j'ai enseignée, pourquoi pas l'histoire que je n'ai jamais enseignée mais que j'ai pratiquée, vous savez, il y a des raisons tout à fait prosaïques à ça. Je fais dans ce collège de Saint-Brieuc, Côte d'Armor, des études tout à fait, je trouve, merveilleuses, par des raisons de professeurs de français tout à fait exceptionnels, dont en particulier la femme de Louis Guilloux, René Guilloux. En revanche, je fais ce qu'il est convenu d'appeler des humanités plutôt médiocres. Si bien que, arrivant en Cagne à Paris, après ces études un peu ratées, je découvre que je suis évidemment incapable de passer l'agrégation des lettres classiques, où 4 épreuves de langues anciennes m'attendent contre une seule épreuve de français. Donc c'est l'échec assuré. Donc ça, c'est une chose qui est barrée pour moi. Et comme 2 choses m'intéressent par ailleurs, la philosophie et l'histoire, je me dis que je ferai soit l'agrégation de philosophie, soit l'agrégation d'histoire. Et je choisis la philosophie pour des raisons elles aussi prosaïques. C'est que le professeur de philosophie est assuré d'avoir en terminale un enseignement qui à cette époque comportait 9 heures dans la classe de philo-lettres, et donc d'avoir à la fois un enseignement plus confortable que l'enseignement d'histoire qui est haché en plusieurs classes et en peu d'heures, et puis aussi avec des élèves, des filles à l'époque, puisque l'enseignement était encore féminin, des filles qui arrivent et qui ont, par rapport à la philosophie, une sorte de demande existentielle forte. Et donc, voilà, c'est très gratifiant d'être professeur de philosophie parce qu'on entre dans la classe, on déverse sur la classe le sujet du jour et on voit, peut-être que c'était aussi une très bonne époque pour ça, on voit les yeux qui se mettent à briller et les doigts se lever. Enfin bref, c'est un enseignement que j'ai trouvé tout à fait passionnant à faire. En revanche, je crois que écrire des livres de philosophie, faire une œuvre, encore moins faire une œuvre en philosophie, était pour moi quelque chose de très intimidant. Et je ne m'y serais pas, je pense, lancé. Donc, j'ai fait de la philosophie à l'université et à l'école normale supérieure. J'ai enseigné la philosophie. Après quoi, pourquoi avoir écrit des livres d'histoire ou travaillé en histoire ? Là encore, ce sont les hasards de la vie. Rien n'est vraiment concerté dans mon itinéraire et ce sont des rencontres. Et c'est la rencontre d'un certain nombre de copains qui s'appelaient Emmanuel Leroy-Ladurie, François Furet, Denis Richet, Maurice Agulon, Jacques Ozouf. Il se trouve que j'ai rencontré cette bande de copains et qui m'ont donné le sentiment, parce que d'ailleurs c'était pour moi quelque chose qui était très frappant, presque éblouissant, c'est qu'ils avaient tous, ils étaient un tout petit peu plus âgés que moi, 2 ans ou 3 ans de plus, mais à cet âge-là ça compte. Mais ils avaient tous des projets, sinon de carrière ou de thèse, mais au moins de livres. Ils s'intéressaient à telle ou telle chose, ils voulaient travailler. Et ils avaient le sentiment qu'écrire un livre était au fond quelque chose de normal dans l'itinéraire. Mais pour une petite Bretonne qui arrive de sa Bretagne lointaine et qui a fait des études un peu chaotiques, pas chaotiques, mais enfin qui en tout cas ne peuvent pas se comparer aux études qu'on pouvait faire dans les lycées parisiens, où on avait déjà en tête la suite, le futur. Moi, ça m'a tout à fait ébloui, et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, donc, vous avez prononcé un mot, je ne sais pas, vagabond ou quelque chose comme ça, vagabondage. Là, je pense que vous rejoignez quelque chose qui est, chez moi, constant. C'est qu'au fond, je n'ai pas le goût de la spécialité. J'ai toujours un peu envie d'extravaguer. Je me souviens d'une conversation avec René Raymond au moment où j'avais écrit ce livre sur Henry James, qui a paru à la plupart de mes copains, d'ailleurs une extravagance complète, mais peu importe. Et René Raymond m'avait dit « Mais écoutez, ça m'étonne parce que moi, je n'ai que des lectures captives. » Et j'avais trouvé que cette épithète joint au mot « lecture », j'avais trouvé ça très triste, qu'une lecture soit captive. Voilà, ça, c'est ce que je n'ai jamais pu pratiquer.
Alors, pourquoi est-ce que je me suis permis de dire effectivement que vous vous baignez depuis toujours comme un liquide amniotique dans les livres et par les livres, mais qu'effectivement, il y a ces trois vocations possibles et que vous avez successivement empruntées, la vocation d'enseignement de la philosophie, de la littérature et de l'histoire. Mais il semble que la littérature ait occupé une part très importante de votre œuvre et de votre souci d'écriture et qui se retrouve effectivement dans vos livres. Alors, ma deuxième hypothèse, c'est de dire, est-ce que d'une certaine façon, vous avez essentiellement regardé le travail des autres? Donc, vous avez essentiellement lu la littérature des autres sans jamais basculer dans le roman ou dans quelque chose qui vous serait propre. Et je me suis demandé si cela ne tenait pas à votre immense pudeur personnelle quant à mes amis, mes amours, comme vous le disiez effectivement au moment où est sortie Composition française et où vous ne vouliez pas qu'on puisse considérer que la première partie de votre livre était des mémoires. Voilà. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas, d'une certaine façon, une pascalienne sublimée par la littérature, avec un moi haïssable, mais qui se retrouvait, d'une certaine façon, en connivence avec la littérature des autres.
Oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans, sauf peut-être l'interprétation pascalienne, parce que je ne trouve pas le moi haïssable, en tout cas le moi tel qu'il se raconte dans des écrits autobiographiques de gens de grand talent, je ne trouve jamais ça haïssable. C'est plutôt le sentiment de la capacité à le faire. Voilà. Je trouve, si vous voulez, que si on fait de l'histoire, par exemple, il y a 1001 degrés dans les livres d'histoire. Il peut y avoir un livre d'histoire tout à fait exceptionnel qui renouvelle un sujet dont on se dit que voilà le grand livre d'histoire de la génération. Mais il y a, en dehors de cet objectif très intimidant, il y a une possibilité d'écrire un livre d'histoire honorable et même plus qu'honorable, intéressant, qui apporte quelque chose, etc. En tout cas, là, il y a beaucoup de degrés. En revanche, qu'est-ce que c'est qu'un roman moyen, sinon un mauvais roman? Voilà, il me semble que l'échelle des jugements dans le domaine romanesque est quelque chose de tout à fait différent de l'échelle des jugements dans le domaine de l'histoire. Et donc, comme je pense que je n'ai pas d'imagination romanesque, parce que si j'en avais une, ça se saurait à l'âge que j'ai, mais qu'en même temps, j'ai souvent une tentation romanesque, et le choix de mes sujets le montre parfois, parce que si j'ai choisi Varenne, par exemple, dans la collection « Les journées qui ont fait la France », quand Gallimard a refait cette collection, et qu'ils se sont adressés à moi, ils m'ont demandé, bien entendu, une journée révolutionnaire, puisque la révolution est quand même un des sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé. Et dans l'histoire de la révolution, j'ai dit tout de suite, sans la moindre hésitation, la seule journée qui m'amuse à faire, c'est Varenne. Et Varenne a une dimension romanesque évidente, puisque le sort de la France est suspendu à un essieu de berline qui faiblit, ou à une halte un peu trop prolongée du roi et de la famille royale à tel ou tel endroit de l'itinéraire, ou etc. C'est-à-dire que, comme dans le roman, les choses peuvent basculer à tout instant, et que cette histoire guérit, il me semble, de la tentation fréquente chez les historiens, qui est celle de la nécessité. Comme ils savent la fin de l'histoire, ils ont tendance à ordonner la chaîne des événements sur un axe qui les conduit inéluctablement à la fin connue. Or, Varenne ne vous guérit complètement de cette tentation. Donc, le roman reste pour moi le genre majeur, mais la réponse est très simple, je m'en sens tout à fait incapable. Mais je me suis donné des petites satisfactions latérales en faisant, par exemple, un livre sur Varenne ou dans composition française, en accordant des chapitres, d'ailleurs les plus nombreux dans le livre, à un récit qui est largement autobiographique, bien que autobiographique, mais pas totalement autobiographique, parce que je n'ai retenu de cette autobiographie que les éléments qui me servaient à éclairer mon problème principal, qui est au fond le problème du rapport entre l'universel et le particulier, en particulier, le rapport entre l'universel et le particulier en France. Et du reste, dans la composition de cet ouvrage, composition française, dont certains de mes amis m'ont dit qu'au milieu, il y avait un trou d'air. C'est-à-dire qu'entre la première et la seconde partie, on passait d'un registre à un autre, ce qui est tout à fait vrai, ce qui a d'ailleurs été pour moi presque une tentation d'arrêter à un moment, parce que je ne voyais pas bien la soudure des deux. Mais il y a au fond dans ce livre un peu des trois tentations que vous m'avez généreusement prêtées à travers mes travaux. C'est qu'au fond, il y a une tentation romanesque, peut-être un peu avortée, mais enfin, elle est là dans la première partie. Il y a une tentation philosophique, qui est la réflexion sur le rapport entre l'universel et le particulier. Et il y a une réflexion historique, qui est le fait de loger ce problème dans un territoire particulier et dans une histoire particulière. Donc, il y a un peu d'étroit dans ce livre.
Alors, toujours pour explorer cet amour qui est le vôtre des romans, des romanciers, la question se pose, pourquoi est-ce que vous avez choisi ceux-là plutôt que les autres? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, je reprends pour nos auditeurs, donc vous avez écrit en 1995 « Les mots des femmes », « La muse démocratique » 98 sur Henry James, « Les aveux du roman », « La république des romanciers », un petit texte qui est effectivement inclus, et tous ces livres-là donc, sont repris par Fayard dans « Récits d'une patrie littéraire », donc qui reprend tous ces éléments-là. Et puis, maintenant, « La cause des livres ». Donc, est-ce que, là aussi, il y a un effet d'école buissonnière, vous êtes tombé sur ces livres-là plutôt que sur d'autres, même si il y a beaucoup de vos amours littéraires, je pense aux romans russes, qui n'ont pas fait l'objet de vos examens par la plume. Voilà. Pourquoi est-ce que tel auteur, plutôt que tel autre, est-ce qu'il y a une question qui est liée à votre travail d'historienne, ou est-ce que c'est le hasard des lectures non captives qui vous déterminent principalement?
Alors, il faut distinguer deux choses. Si je prends le livre sur Henry James, celui-ci est un livre absolument personnel, qui relève d'un coup de foudre ancien pour cet auteur. Et donc là, c'est un choix qui m'appartient complètement. En revanche, les articles que réunit le nouvel ouvrage, La cause des livres, sont des articles écrits au fil des années dans le Nouvel Observateur. Donc ce sont des articles qui sont commandés par l'actualité éditoriale, par les commémorations, par les anniversaires, mais qui sont commandés aussi par la présence dans le journal de tels ou tels autres spécialistes de tels autres sujets. Et c'est vrai que ce que vous avez dit du roman russe est tout à fait exact. Pourquoi n'ai-je jamais rendu compte dans les colonnes de l'Observateur d'un roman de Tolstoï ou de Tchekhov ou de je ne sais pas quoi? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai même pas de réponse, mais je suppose que quand ça arrivait et il y avait quelqu'un d'autre qui était dans le journal mieux désigné que moi par ses travaux antérieurs pour le faire, en tout cas ça ne s'est pas fait. Si bien que ce gros livre, La cause des livres, ne reflète pas tout à fait mes choix personnels de lecture, bien que, naturellement, il y a aussi des choses que j'ai refusées parce que je ne me sentais pas du tout en connivence intellectuelle ou affective avec le livre. Donc, ça dépend des ouvrages. Il y a ceux qui sont un mélange, comme La cause des livres, disons, de hasard et de nécessité. La nécessité intérieure, c'est-à-dire de tel ou tel choix, telle ou telle élection de ma part, mais aussi la contrainte du journal, ça c'est un mélange. Et puis il y a des livres, comme le livre sur Henry James, qui, eux, répondent à une préoccupation personnelle. Mais probablement, là encore, il y a un mélange dans le Henry James, c'est que je l'ai titré « La muse démocratique ». Très mauvais titre du reste, parce que beaucoup trop cryptique et le livre n'a eu aucun succès. Mais pour moi, ça faisait écho à un des romans de James qui s'appelle « La muse tragique ». Et surtout, Ce que je voulais traiter, c'était pas faire un livre, un énième livre sur James ou sur l'art littéraire de James, c'était traiter le problème de James et la démocratie. Et au fond, dans tous les romans de Henry James, on voit James énumérer, ou enfin, oui, recenser, inventorier les manières que l'on peut avoir de modérer le mouvement ou la dynamique de la démocratie. Ces moyens peuvent porter des noms variés, ça peut être l'art, ça peut être la religion, ça peut être l'amour, etc. Et voilà, évoquer à chaque fois les possibilités par toutes ces instances de modérer un mouvement démocratique qui, aux yeux de James, va vers une platitude généralisée, une vulgarité, disons, généralisée. Et donc, comme James est à la fois, un peu à la manière de Tocqueville, un esprit aristocratique, mais qui croit à l'irrésistibilité de la démocratie, font toute l'œuvre de James peut-être, je trouve, analysée à cette lumière-là. Donc c'est aussi un travail de philosophie et d'histoire, mais voilà, appliqué à des romans particuliers.
Alors ce que vous dites sur James, est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer en ce qui vous concerne ? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'amour que vous avez de la littérature des autres est une façon pour vous de mettre une forme de pentimento aristocratique dans votre foi républicaine ou dans vos études révolutionnaires qui conduisent à un monde, comme vous le dites, peut-être trop démocratique. Vous signalez dans l'introduction à l'aveu du roman donc le caractère double de la littérature. La littérature, elle vit de forme et de tradition, hein, et donc elle est aristocratique, dites-vous, dans son essence, et en même temps, elle observe la société et la démocratie telle qu'elle existe. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, votre amour de la littérature des autres, celle que vous étudiez, n'est pas une façon de réconcilier l'aristocratie de l'esprit et votre foi républicaine ?
Oui, j'aimerais que vous ayez raison. C'est-à-dire, j'aimerais que ce soit effectivement ça qui m'est servi, souvent très inconsciemment, mais qui m'est servi de fil conducteur. Bon, mais je trouve votre formulation un peu, comment dire, un peu ambitieuse. Parce qu'au fond, je ne me suis jamais proposé ça, clairement, dans la conscience claire. Mais il y a quelque chose de tout à fait exact, et que vraiment je vous suis reconnaissante d'avoir perçu, c'est que je crois que la France est le pays où l'idée républicaine s'est adoucie d'accommodements divers, accommodements qui sont empruntés à une sorte de persistance ou de survivance de la culture aristocratique. Et c'est pourquoi le modèle républicain intégriste qui existe, qui même souvent, j'ai presque envie de dire, tient le haut du pavé, qui est celui qui est le plus visible, ce modèle républicain intégriste me paraît à la fois peu aimable et peu pertinent, peu juste. Parce que, contrairement à ce qui nous est dit si souvent, la République en France s'est installée à force de négociations avec la culture aristocratique et d'accommodement avec la culture aristocratique, ou d'accommodement avec la tradition. Et il me semble que ce qu'on ne met jamais assez en lumière dans les études républicaines, c'est ça, c'est que les compromis y ont été légion. Et qu'en fait, la République n'est parvenue à s'enraciner en France et à s'acculturer en France que par des hommes, à travers des hommes, et des, comme Jules Ferry par exemple, qui comprennent que la République, d'ailleurs qui comprennent dans la tradition de Madame de Staël, qui est une des femmes qu'il comprend le plus vite, que la République ne parviendra jamais à s'installer en France si son modèle est la République romaine ou la République spartiate, que là, il y a quelque chose d'incompatible avec le génie français et qu'il faudra bien, pour acclimater la République, la faire aimer des Français et très particulièrement la faire aimer des femmes françaises, il faudra habiller la République autrement. Et là, je crois que c'est la grande réussite de quelqu'un comme Ferry, précisément, d'avoir compris qu'il fallait découpler la République de la Révolution et qu'on arriverait à être républicain en France que, oui, en découplant la République d'une révolution qui, elle, s'est alimentée de modèles, si je dis intégriste, c'est pour aller vite, mais de modèles beaucoup trop pourvus d'une telle brutalité ou d'une telle entièreté que personne ne pouvait les accepter et que du reste, ils ne pouvaient être imposés que par la force. L'idée de l'homme nouveau, l'idée d'une société entièrement régénérée, ne peut se soutenir qu'avec la contrainte. Et c'est cela que, très vite, des républicains comme Stahl et Constant ont compris. Et c'est ce qu'il y a de plus attachant, me semble-t-il, dans la tradition républicaine. Donc ce que vous dites est probablement, oui, vrai.
Et donc je me suis demandé si effectivement cet entre-deux qui est le vôtre, c'est-à-dire à la fois dans le constat historique des mœurs démocratiques qui sont de plus en plus plates, et d'autre part ce goût particulier de la culture aristocratique, ne vient pas chez vous d'une situation particulière, c'est-à-dire de situations d'indétermination qui vous sont propres. Vous avez fait référence effectivement à composition française, vous étiez pris d'une certaine façon entre trois cultures, celle de la maison, de l'école républicaine et de l'église. D'autre part, quand vous parlez effectivement de votre métier d'historienne, vous dites bien que l'historien a comme tâche de napper d'une certaine façon les différences, comme un pâtissier, l'expression est de vous. Et troisième chose, vous indiquez dans La cause des livres que ce goût des livres vient chez vous d'un contre-pied, je vous cite dans votre introduction, d'un contre-pied à votre stage de 4 ans, enfin le stage est de moi, mais de 4 ans dans la douteuse religion communiste. Donc est-ce que le goût de la littérature qui est le vôtre ne vient pas justement comme une espèce d'antidote à tout ce qui est déterminé, fixé, opposé, et à votre souci de réconcilier, d'être dans la réconciliation de conflits ou de difficultés qui vous sont pour partie biographiques.
Oui, j'ai toujours une petite hésitation parce que rien n'est plus facile au fond que de se fabriquer de la cohérence a posteriori. Donc j'ai toujours peur, quand je m'embarque dans ce type d'explication, j'ai toujours peur de forcer un peu la note. Mais malgré tout, j'ai quand même le souvenir de ces quelques années où, comme tellement de jeunes gens de ma génération, par d'ailleurs probablement expiation bizarre des années précédentes où nous étions trop jeunes, pour entrer dans une militance réelle et où nous avions des aînés immédiats qui, eux, s'étaient engagés dans des choses très difficiles, parfois héroïques. Donc toute cette génération-là, je crois que ça marque vraiment en entier cette génération de jeunes gens qui étaient trop petits, trop jeunes pendant la guerre pour avoir fait quoi que ce soit et qui, après, se retrouvent avec des modèles héroïques qui sont bien en peine d'égaler et qui se trouve dans l'engagement communiste. Généralement, c'est cet engagement-là. Bon, pour des raisons historiques qu'on pourrait très facilement développer, mais ce n'est pas la peine de les développer longuement ici. Donc, ils se trouvent dans... qui veulent faire une sorte de guerre de procuration ou de substitution, et qui donc, voilà, s'engagent dans cette militance. Mais c'est quand même quelque chose, une militance qui était tout à fait difficile à vivre, et qui est très vite devenue difficile à vivre parce que la réalité historique s'est chargée d'infliger des démentis cruels à nos croyances. Et de fait, un des refuges à cette époque quand même très austère, où la lecture même du monde était interdite aux jeunes militants communistes parce qu'il ne fallait pas toucher à la presse bourgeoise, ce qui d'ailleurs fait rêver sur l'idée que un contre-enseignement peut toujours loger dans les pages soit du Monde, soit du Figaro, même sans aller jusqu'au Figaro. Bon, bref. Donc, il y avait quand même quelque chose de terriblement austère pour des jeunes gens qui étaient des jeunes gens cultivés, avec une tradition culturelle. Donc, la littérature était le seul domaine qui paraissait largement échappé aux oukases politiques. Et ça, ça a sûrement beaucoup compté. Je sais que quand j'étais à l'école normale supérieure, je suis entrée à l'école tout en adhérant au Parti communiste et j'ai tout de suite demandé à avoir dans ma chambre, qu'on appelait pompeusement la bibliothèque progressiste, donc pour avoir simplement des rayonnages et un tapis, pour avoir ma chambre tapissée de livres, ce qui m'a toujours paru une sorte de protection et de réconfort. Mais ces livres, personne ne venait les emprunter et personne ne les lisait. Et j'ai vécu parmi ces livres sans les ouvrir et en ouvrant d'autres. Et donc, il me semble que dès, même à l'intérieur de ces 4 années de stage, comme vous dites, c'était effectivement ça, un stage de jeunesse qui m'a appris des choses du reste. Mais il y avait des échappées, il y avait une échappée belle à côté, et cette échappée belle s'appelait la littérature, parce que la littérature est ce qui quand même nous apprend que la part dans nos vies du non programmé, de l'inattendu, de l'intempestif.
Oui, cette part récalcitrante de l'existence humaine, ça c'est de Benjamin
Constant.
Voilà, qui définissait effectivement, et vous le reprenez dans la course des livres, qui définissait ainsi la littérature. Donc c'est cette part-là, effectivement, récalcitrante, qui a toujours été l'objet de vos attentions, et pour nuancer, ou pour mettre de la nuance dans des époques, ou dans des engagements, par ailleurs, qui auraient pu vous amener à plus de raideur, de fureur, de colère, d'emportement.
C'est pour mettre un peu, effectivement, de la complexité, et en ce sens que vous avez dit sur les racines lointaines de ce goût de la complication.
Oui.
Effectivement,
ou de la conciliation plutôt, oui.
Oui, la fois des deux, la complication et de l'effort de conciliation. Effectivement, ça doit tenir à mon enfance, qui était une enfance divisée, puisque ce que j'apprenais à la maison était contesté à l'école et réciproquement, alors que la maison et l'école constituaient le même espace, et un espace très exigu. Donc il y avait là quelque chose, même pour un enfant, entendre traiter avec dérision à la maison les héros qu'on vous donne à admirer à l'école, quelque chose d'un peu surprenant, enfin, qui n'est pas facile à vivre.
Alors nous allons observer une petite pause musicale et nous reprenons juste après notre entretien avec Mona Ouzouf. Donc nous retrouvons Mona Ouzouf autour de ce livre, donc La cause des livres, et nous cherchons donc depuis le début de cet entretien à voir comment est-ce que cet amour des livres dans lequel vous avez toujours baigné et qui a fait l'objet d'un certain nombre de vos publications vous est venu, comment est-ce que vous le comprenez peut-être a posteriori avec cette facilité dont vous parlez qui est de reconstituer a posteriori quelque chose qui est de l'ordre de la cohérence, mais qui peut-être ne l'est pas et relève plus de l'école buissonnière que du vrai projet. Et je voudrais continuer avec deux hypothèses supplémentaires sur cet amour de la littérature qui est le vôtre. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la littérature est le lieu d'épanouissement des qualités féminines et des tempéraments féminins ? Dans cette préface, donc à la cause des livres, vous dites « l'arrogance est masculine », alors que les femmes ont l'ingéniosité modeste de faire avec le monde comme il va. Elles sont plus libres, moins prisonnières de la gangue sociale, et donc elles ont plus l'observation de la liberté intellectuelle. Est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine façon, la littérature, c'est pour un homme ou pour une femme, mais que la littérature, pour celui qui l'écrit et ou qui la lit, la part en nous du plein épanouissement des qualités féminines ?
Je ne sais pas si je vais jusque-là, mais vous me faites penser à un texte de Balzac, dans une préface à Une fille d'Ève, où Balzac explique que les mondes où les femmes sont cloîtrées sont des mondes où la littérature est bannie. Et que pour qu'il y ait littérature, il faut que les femmes soient visibles. Et d'ailleurs, ce thème de la visibilité des femmes est un thème non seulement littéraire, mais aussi un thème très français. Parce que quand on interroge les voyageurs étrangers en France, que ce soit au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, les voyageurs étrangers en France, ce qui les frappe toujours, c'est la présence partout des femmes. Les femmes sont partout. Et donc, c'est vrai, on trouverait ça sous la plume de Hume, on trouverait ça sous la plume de Henry James, on trouverait ça, enfin, bref. Et donc, il y a effectivement quelque chose, il y a une sorte de partie liée entre la littérature et voilà, l'existence des femmes dans le monde social et la visibilité des femmes dans le monde social. Oui, ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Alors, en revanche, ce que vous avez cité, l'arrogance, l'ingéniosité féminine, dites-vous, enfin, vous dites que je l'ai écrit dans la préface, en effet, probablement, sûrement même, que l'ingéniosité des femmes à faire avec le monde tel qu'il est, opposée à l'arrogance masculine, oui, je l'écris sous mon nom, mais enfin, c'est un thème qui est absolument constant. Si on prend, par exemple, la littérature de Jane Austen, c'est un thème constant chez elle, que les hommes composent une planète agitée, occupée de choses qui sont essentielles pour eux, mais qui peuvent tout à fait de l'extérieur paraître futiles, comme, je ne sais pas, la chasse, le sport, des choses de ce genre, et que les femmes qui sont condamnées à ne pas participer à ces jeux ou à ces activités aiguisent leur esprit d'observation et leur esprit d'ironie. Donc c'est un peu à ça, je pense, que j'avais dans la tête en développant ce thème.
C'est juste pour conforter cette idée, vous dites toujours dans cette introduction, qui est à la fois peut-être effectivement celle qui reflète l'idée que l'on s'en fait, et peut-être aussi celle que vous faites vous-même, qu'il y a une science, je vous cite, une science féminine des accommodements, et vous dites que les femmes sont, je vous cite, des créatures d'imagination en colloque avec l'invisible, toujours un brin sorcière. Est-ce que effectivement tout cela, qui est à la fois des clichés et à la fois quelque chose qui met bien en évidence peut-être cette science de l'accommodement, du détail, de l'observation, de la conciliation, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est proprement féminin, pour autant qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose de proprement féminin aujourd'hui, quelque chose de proprement féminin et quelque chose que vous retrouvez ou que vous aimez retrouver dans la littérature?
Oui, il y a quelque chose que j'aime retrouver dans la littérature, il y a quelque chose qui est profondément ancré. Alors là, dans mon enfance, c'est que le personnage de ma vie enfantine, qui est à la fois le personnage le plus pragmatique et le plus lié à, disons, à la surnature, au surnaturel, à l'invisible, au fantastique, c'est le personnage de ma grand-mère, qui est la plus pragmatique des femmes, qui pense que aucun chagrin ne résiste à une bonne tasse de café ou à une tranche de pastéchou, qui est le gâteau breton réconfortant.
Ou un air de Tino Rossi.
Ou un air de Tino Rossi, parfois. Donc, c'est quelqu'un qui pratique la science modeste mais indispensable de la vie quotidienne et qui sait quelles sont les recettes pour adoucir cette vie quotidienne, souvent pourtant très, presque tragique. Et en même temps, cette personne totalement pragmatique est celle qui a une sorte de conversation avec les morts, avec les disparus, et avec un monde surnaturel. Pas un monde surnaturel tel qu'on l'imagine quand on évoque le folklore breton, les fées, les korrigans, etc. Donc c'est pas tellement ça. C'est le fait que la présence des morts, la présence de ce qui n'est plus visible mais qui est là quand même, est constante. Et ça, je pense que ça a été pour moi assez déterminant, oui. Et je pense que c'est un trait féminin.
Voilà. Je voudrais terminer donc cette idée-là de pourquoi est-ce que vous êtes d'une certaine façon à la charnière entre ces trois mondes, philosophie, histoire et littérature, par justement l'histoire. Donc dans ce livre, La cause des livres, vous rajoutez, parce que ce n'est pas des textes qui ont été publiés dans Le Nouvel Observateur, mais vous rajoutez deux textes pour deux historiens que vous avez ou que vous aimez, Pierre Nora et François Furet, et qui, tous les deux, dites-vous, sont liés à une certaine hygiène de la croyance qui a maille à partir, d'une certaine façon, avec la littérature. Alors, je vais reprendre les deux points. Sur Pierre Nora, vous dites, donc page 530, qu'il est l'heureux sujet d'une monarchie absolue, la littérature française. Et que cette allégeance à la littérature française permet de mieux comprendre pourquoi il est sorti ou il a été préservé d'un centre de sottises de l'époque, d'une part, et que ça lui a permis d'être ou d'avoir une forme d'inventivité historique qu'il n'aurait sans doute pas eu. Donc il y a chez lui, dites-vous, un lien très fort entre la littérature et sa vocation ou son projet historique. Et pour François Furet, votre complice de toujours, vous dites de lui, page 539, « Il y a chez François Furet un romancier qui s'ignore, qui s'enchante de la rencontre intempestive du dérapage des vies. » Alors la question que je me pose, c'est est-ce que tous les trois des historiens, est-ce que vous n'êtes pas tous les trois des historiens qui ont eu ou qui ont un tempérament littéraire et que ce tempérament littéraire vous a donné une forme d'inventivité ou de novation ou de compréhension des situations que d'autres, moins littéraires, n'auraient pas eu.
On va réduire le propos à deux personnes et pas à trois, si vous voulez bien. En ce qui concerne Pierre et François, Pierre Nora et François Furet, la chose est différente pour chacun d'eux. Je crois que la littérature, la pratique de la littérature, a probablement beaucoup plus compté pour Pierre Nora que pour François Furet. Le cas de François est un peu différent. Pour Pierre Nora, je crois que l'histoire a été d'une certaine manière le deuil éclatant de la littérature. Son ambition initiale, il le dit peu, mais je le sais, était le théâtre, ce qu'il n'a pas fait, mais il aurait été excellent parce que c'est un très grand lecteur et aussi un très grand imitateur, quand il le veut bien. Mais, par exemple, l'idée, le projet qu'il a eu de faire ses essais d'égo-histoire, c'est-à-dire de demander à quelques grands historiens de raconter leur rapport personnel, existentiel avec le choix de l'histoire comme discipline, c'est quelque chose qui ne pouvait germer que dans une cervelle pétrie de littérature. Et du reste, ça m'amuse aussi quand je relis cet ensemble, qui est tout à fait intéressant. Mais puisque nous venons d'évoquer le problème des hommes et des femmes, il n'y a qu'une seule femme dans l'ensemble d'égo-histoire qu'il a extorqué à ses amis, c'est Michel Perrault. Tous les autres sont des hommes, Le Goff, Duby, Agulon, etc. Et la différence entre le texte de Michel Perrault et le texte des autres est absolument saute aux yeux. Je m'étonne que personne ne l'ait encore remarqué. C'est qu'au fond, tous les hommes naissent avec leur entrée en cagne ou la rencontre d'un professeur prestigieux. Les femmes naissent bien avant. Autrement dit, dans ces récits d'égo-histoire, le seul récit qui soit hanté sur l'enfance et sur les détails de l'enfance est le texte, magnifique du reste, de Michel Perrault. Et donc, c'est une digression, mais qui ramène un peu à notre sujet précédent. En tout cas, Pierre s'est fait à la fois l'historien des lieux de mémoire, c'est-à-dire de la traîne des souvenirs dans chacun des lieux et de la manière qu'a le présent de réanimer tel ou tel de ses souvenirs et de recomposer le lieu à la lumière du présent qui agit d'une certaine manière comme une loupe. Et il a, toute son œuvre est axée autour du thème, l'enjeu de la découverte d'un enjeu de la mémoire qui n'est pas le même que l'enjeu de l'histoire. L'enjeu de la mémoire, pour la mémoire par exemple, l'enfance peut être infiniment plus proche que l'adolescence ou que l'âge mûr. C'est le présent qui détermine l'enjeu. En revanche, l'historien, lui, est bien obligé de suivre la chronologie et d'aller de l'enfance à l'adolescence, à l'âge mûr, etc. Donc le découpage qu'opère la mémoire par rapport à l'histoire est totalement différent. Et bien entendu, ça a partie liée avec la littérature et avec la littérature romanesque. Parce qu'il n'y a pas de littérature romanesque sans déroulement de la traîne des souvenirs et choix dans cette traîne des souvenirs de celui qui a été déterminant pour la composition de la personnalité. Bon. Donc, ce que Pierre a apporté en histoire, le thème de l'égo-histoire, le thème du lieu de mémoire, la prééminence du présent sur les autres temps qui nous sont proposés, et le passé et l'avenir, ça, je crois que ça vient de la grande sensibilité littéraire de Pierre Nora. En revanche, je crois que François Furet était quelqu'un d'esprit plus philosophique et plus historique, qu'il lisait moins, beaucoup moins de romans. Il était tout à fait surpris que je m'intéresse à Henry James, par exemple. Il lisait et relisait constamment de grandes œuvres, mais presque toujours les mêmes. Mais en revanche, c'était, je crois, plus qu'un, peut-être ai-je dit romancier dans ce texte, un romancier qui s'ignore, c'était un merveilleux portraitiste. C'est quelqu'un qui savait, en très peu de mots, avec une grande économie, une grande sobriété de moyens, faire des portraits tout à fait saisissants. C'est plutôt comme portraitiste qu'il faudrait le définir. En tout cas, effectivement, l'un et l'autre ont eu un rapport avec l'histoire qui n'était pas tout à fait un rapport de spécialiste de telle ou telle période,
et
me
pour,
semble.
Pour François Furet, vous m'en prenez si je me trompe, mais peut-être que son amour de Mirabeau, qu'il a considéré comme peut-être le personnage le plus important de la Révolution française, vient aussi de cette accointance entre un personnage politique et un personnage hautement romanesque qui était Mirabeau.
Oui, il y a ça chez lui, et puis il y a aussi le fait qu'il décline des allégeances qui pourraient être rangées sous la même bannière ou sous la même étiquette. Il décline ces allégeances en autant de parcours de vie absolument différents, d'itinéraires absolument différents.
Alors on peut dire donc, et puis on en terminera là-dessus, on peut dire donc que pour Pierre Nora, ce qui l'intéresse, donc c'est la mémoire, c'est-à-dire d'une certaine façon la part littéraire de l'histoire. Ce qui intéresse François Furet, dites-vous, c'est aussi les portraits, donc effectivement la capacité de pouvoir mettre un visage, un corps, une présence dans l'histoire. Et en ce qui vous concerne, donc vous avez bien dit que s'il y avait un sujet sur lequel vous souhaitiez faire quelque chose, c'était bien Varennes, qui est, comme vous l'avez dit au début, la partie la plus romanesque, d'une certaine façon, de la Révolution, parce que la berline, la pièce de monnaie, etc., qui sont des éléments romanesques. Donc tout ça, peut-être, donne un fil continu d'une attention aux détails que seuls des esprits, par ailleurs littéraires, peuvent scruter à l'intérieur de l'histoire.
Oui, vous savez, il y a une définition de Nabokov sur le roman que je trouve absolument merveilleuse, et Nabokov dit « le roman est une démocratie de détails ». Et là, je trouve qu'il dit beaucoup de choses. Le romancier, c'est celui qui capte un détail et qui en fait sortir un monde. Quand le cortège de noces d'Emma Bovary, quand Emma, qui se déroule à travers champs, et où la traîne de la robe de mariée se charge petit à petit de petits chardons desséchés et de poussière, et qui est d'avance une allégorie du mariage calamiteux qui va suivre, ça, voilà, ça, c'est quelque chose de superbe.
Eh bien, Mona Ozouf, merci beaucoup. Donc, je renvoie nos auditeurs donc, à La cause des livres, donc, qui est un recueil de 7 thèmes, si je me souviens bien, de vos lectures, non pas de toutes vos lectures, mais de vos lectures à la fois choisies et à la fois commandées, avec seulement, parce que j'ai rarement vu de désaccord ou de rejet ou de critique, avec beaucoup d'empathie pour tous les livres choisis, qui est peut-être le trait fondamental de vos choix. Voilà, et je renvoie aussi donc nos auditeurs à ce livre, donc, qui est paru il y a déjà quelques années, qui s'appelle Mona Ozouf, récit d'une patrie littéraire, et qui reprend 3 ou 4 de vos livres sur la littérature, donc Les mots des femmes, Les aveux du roman et La muse démocratique, sans oublier donc La République des romanciers, qui est un ensemble de recueil d'articles, d'en commentaires sur Stendhal d'une part, et puis d'autre part sur Histoire et politique dans Les Misérables, donc Victor Hugo. Voilà. Mona Ozouf, merci beaucoup.
Merci à vous.